ouvrir cette table ronde qui traite des cellules souches à l'origine du vivant. Avant, on m'a demandé de faire une petite annonce pour les éventuels anglophones qui seraient présents dans l'assistance. Les boîtiers de traduction sont accessibles, ils sont sur le côté, et si vous allez les chercher, n'oubliez pas de les rapporter à la fin de la table ronde. Alors, pour animer cette discussion, nous avons autour de nous des participants extrêmement intéressants, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous Karim Sitayeb, je commence par ma gauche, qui est chercheur à l'INSERM, qui travaille sur la différenciation des cellules souches, qui en particulier travaille dans le domaine de la reconstruction d'organes et je crois de la reconstruction du foie en particulier. Il nous en parlera plus en détail. À côté de moi, Patricia Lemarchand, qui travaille à l'INSERM, elle aussi, et qui, en tant que médecin, travaille dans le domaine de la thérapie cellulaire, travaille plus spécifiquement sur le domaine cardiovasculaire et respiratoire, qui est lauréate des Victoires de la médecine en 2005, qui dirige actuellement la structure de recherche, l'ensemble d'équipes et l'organisation des moyens sur ces recherches de pointe dans le domaine des cellules souches. Ensuite, à ma droite immédiate, Marion Mazoric. Vous connaissez probablement Marion Mazoric. Elle est très connue dans le milieu de la science-fiction pour avoir occupé des fonctions de directrice littéraire dans de nombreuses maisons d'édition, en commençant par Actes Sud, puis en dirigeant pendant une quinzaine d'années, je crois, en tant que directrice littéraire, les éditions J'ai lu, puis en ayant créé sa propre maison d'édition, Le Diable Vauvert, ce qui lui a permis de prendre son indépendance par rapport à Paris. Je crois qu'elle est militante sur le fait qu'il n'y a pas que à Paris qu'il se passe des choses intéressantes. Et pour aussi faire des choix éditoriaux et nous donner des ouvrages tout à fait intéressants et de grande qualité dans le domaine de la science-fiction, donc domaine qu'elle connaît très bien et dont elle nous parlera. Et enfin, tout à droite, Jean Rebillat, scientifique, mais pas dans le domaine des cellules souches, tout à fait, puisque Jean Rebillat a travaillé comme ingénieur dans le domaine de l'aérospatiale, mais ayant un très grand intérêt pour la science-fiction, qui l'a amené à collaborer de manière de plus en plus régulière avec des éditeurs et en particulier avec la maison d'édition ActuSF, où Jean Rebillat participe à la rédaction de guides sur les littératures de l'imaginaire, à la rédaction d'essais, est de plus en plus actif dans le domaine et travaille aussi comme romancier ces derniers temps. Donc voilà, une activité diversifiée. Nous avons deux scientifiques d'un côté, deux très bons connaisseurs du genre de la science-fiction de l'autre. Nul doute que les débats seront animés. Alors, je propose que pour commencer, on fasse le point sur l'état actuel des travaux sur les cellules souches, qu'on nous rappelle un peu ce que c'est, qu'on nous rappelle en même temps ce sur quoi le prix Nobel de médecine a mis l'accent, puisque ce domaine a été vraiment mis sous les feux des projecteurs ces derniers temps. Donc, lequel de vous deux? Est-ce que Karim veut commencer?
Je ne suis pas sûr que ça marche. On m'entend là? Oui. Oui, alors, donc, en fait, j'aimerais commencer par essayer de distinguer la notion de cellules souches, parce qu'il y a différents types de cellules souches. Et, par exemple, parmi les cellules souches, il y a des cellules souches qui vont avoir un potentiel de différenciation, c'est-à-dire qui vont se transformer en un type cellulaire particulier limité. Et un exemple facile à réaliser pour ça, c'est par exemple les cellules de la peau qui sont sans cesse renouvelées. Donc en fait, on a des cellules souches qui vont spécialement donner des cellules de la peau. Mais ces cellules ne vont pas pouvoir donner des cellules de cœur, de foie ou des muscles. Et d'autres types cellulaires sont dites des cellules souches pluripotentes qui en fait vont avoir la capacité de se transformer en n'importe quel type cellulaire du corps humain. Et c'est ce qui se passe pendant le développement embryonnaire. Donc, dans les étapes très précoces du développement, on a une masse de cellules qu'on appelle la masse interne cellulaire, où se situent les cellules souches, et en fonction de l'environnement, vont se transformer en un type cellulaire ou un autre. Alors, ces cellules ont été mises en disposition en culture il y a à peu près une quinzaine d'années. Et donc des recherches ont commencé à se mettre en place. Donc ce sont des cellules souches pluripotentes embryonnaires. Et la recherche s'est mise en place en étudiant ces cellules pour étudier le développement de différents types cellulaires donnant différents types d'organes, comme le foie par exemple, qui est ma spécialité. Et en fait, c'est un modèle qui est relativement attractif parce que... contrairement à d'autres modèles qu'on utilise dans la recherche, comme les modèles murins ou d'amphibiens, ces cellules sont beaucoup plus proches de la physiologie de l'homme et donc peuvent répondre plus facilement à des questions qu'on se pose sur certaines maladies humaines. Alors, personnellement, j'ai commencé à travailler sur le foie en essayant de différencier les cellules souches embryonnaires humaines en cellules de foie. Et pendant mes recherches, donc le docteur Shinya Yamanaka a mis en évidence la possibilité de prendre des cellules du corps humain, donc par exemple des cellules de la peau, de les refaire revenir en arrière en cellules, à l'état de cellules souches, qui sont quasiment identiques à des cellules souches embryonnaires humaines. Et donc ces cellules ont tout un potentiel pour pouvoir se différencier en différents types cellulaires, muscles, cœur, neurones, foie. Et donc ensuite, à partir de ces cellules, pouvoir les différencier et étudier soit des maladies, soit des phénomènes de développement. Et donc à partir de cellules issues de patients qui ont des maladies génétiques, donc qui portent ces maladies dans leur génome, on va pouvoir les faire revenir à l'état de cellules souches et au laboratoire étudier ces maladies. Alors Shinya Yamanaka, qui a donc eu le prix Nobel cette année avec John Gordon, John Gordon a initialement commencé à travailler sur ce processus de retour en arrière de ces cellules, et il a commencé à travailler sur des cellules d'amphibiens et premier à montrer qu'en fait le dogme était qu'une fois qu'on avait des cellules souches embryonnaires, lorsqu'elles se différenciaient, elles ne pouvaient pas revenir. Elles étaient différenciées, spécialisées, et ça s'arrêtait là. Donc c'est le premier qui a pu montrer des évidences que, en fait, on pouvait revenir en arrière. Et Shinya Yamanaka, qui était originellement pédiatre, et qui a commencé à se mettre dans la recherche parce qu'il voulait répondre à des questions auxquelles il ne pouvait pas, en tant que pédiatre, sur des maladies infantiles, a commencé à reprendre ses travaux pour essayer de les appliquer aux mammifères, d'abord chez la souris. Et en 2006, il a publié donc, la possibilité de reprogrammer ces cellules, donc on dit somatiques, donc cellules de peau ou de muscles, à l'état de cellules souches, et ensuite de pouvoir redonner une souris complète à partir de ces cellules dites induites ou IPS. Et à peu près l'année d'après, en 2007, il a publié la possibilité de réverser les cellules différenciées humaines en cellules souches. Donc maintenant, on peut utiliser ces cellules pour différencier en différents types cellulaires, et il y a d'énormes travaux qui vont dans ce sens. Et à présent, moi je m'intéresse plus à la reconstruction d'organes, donc utiliser des matrices d'organes donc, où on enlève complètement toutes les cellules et les remplacer par des cellules différenciées à partir de cellules souches pour étudier des maladies dans un environnement un peu plus physiologique et proche de la réalité.
Et Patricia, vous travaillez dans la même équipe, je crois que vous dirigez globalement ce pôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, puisqu'on était en train de parler de thérapie, de guérison, je crois que vos propres recherches sont très clairement orientées dans ce domaine.
Alors, les cellules souches, ce n'est pas que de la science-fiction, c'est de l'utilisation au quotidien en clinique humaine. Ça fait 40 ans que l'on fait à des patients qui ont des cancers du sang très évolués, des greffes de moelle osseuse, parce que dans cette moelle osseuse, il y a des cellules souches de la moelle osseuse qui vont être extrêmement utiles pour lutter contre le cancer du sang. Et de façon plus récente, ça a commencé dans les années 2000, on a commencé à utiliser les cellules souches dans les maladies dites dégénératives, c'est-à-dire quand il y a une disparition d'un tissu, un morceau de tissu cardiaque, de tissu nerveux ou de tissu hépatique, on va essayer de venir avec des cellules souches pour compenser ces disparitions de tissus et régénérer ces tissus. Donc à Nantes, nous avons depuis les années 2000 commencé à injecter des cellules souches adultes, c'est-à-dire des cellules souches qui sont prélevées chez des patients eux-mêmes pour essayer de pallier à des insuffisances cardiaques, des problèmes cardiaques.
Je vais tout de suite poser une question de profane. Je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle. L'avantage que j'ai dans cette table ronde, c'est que je ne suis pas du tout spécialiste du domaine. Donc, je vais tout oser. Quand il y a un terme qu'on entend souvent quand il est question de greffe de moelle osseuse, c'est la question des donneurs compatibles. Est-ce que c'est un concept significatif quand on parle de cellules souches ? Est-ce qu'on ne peut faire que de l'autogreffe ? Ou est-ce qu'il y a de la compatibilité entre un nombre restreint de donneurs ?
Alors effectivement, pour ce qui est des cancers du sang, suivant la situation, on fait des autogreffes, c'est-à-dire qu'on va, chez un malade qui a un cancer, on va prélever ses cellules à moelle osseuse, on va les mettre au congélateur. On va ensuite, le malade, lui faire une chimiothérapie intensive, une radiothérapie intensive. Et quand il va sortir de là, guéri de son cancer, mais il n'aura plus de cellules souches dans sa moelle osseuse, on va lui réinjecter ses propres cellules qu'on aura gardées au congélateur quelque temps. Donc ça, c'est l'autogreffe. C'est plus de 300 autogreffes à Nantes, par exemple, par an. Et puis, dans un certain nombre de cas, on va faire des allogreffes. On va spécifiquement, justement, aller chercher des cellules qui sont un peu différentes des cellules du sujet qui a le cancer, parce qu'elles vont utiliser ces différences pour tuer justement les cellules cancéreuses du receveur. Alors maintenant, on réfléchit à utiliser ces techniques d'allogreffe aussi dans les maladies dégénératives, parce qu'il semble que certaines cellules souches puissent échapper à la reconnaissance immunitaire, et donc bien qu'elles soient allo, ne soit pas rejeté par l'organisme. Donc ça, c'est aussi un pan de recherche important.
Bon, on entrevoit tout de suite des perspectives vertigineuses derrière ces travaux de pointe. Je vais me tourner vers le côté droit, vers la science-fiction. Et on peut peut-être commencer à interroger un petit peu Marion sur le travail éditorial qu'elle mène dans sa maison d'édition et ses choix éditoriaux et l'intérêt qu'elle porte à ces thématiques qui concernent la recherche scientifique de pointe. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous portez un intérêt particulier, que vous avez eu l'occasion de publier chez un éditeur ou un autre, ou actuellement quel intérêt vous avez pour
les sciences ?
Pas forcément pour la hard science, mais pour les questionnements à base scientifique.
En fait, je dirais pas d'intérêt spécifique en soi, je suis d'ailleurs très peu scientifique, mais un intérêt initial qui est lié à... Et c'est ce qui me conduit directement à la science-fiction, qui est lié au réel. C'est un catalogue qui a été créé pour publier des écritures contemporaines, je dirais, qui à mon avis vont franchir le cap du temps, qui interroge l'avenir. Donc il y a beaucoup de romans réalistes, etc. Et des romans surtout qui sont en phase avec ce qui s'écrit aujourd'hui et qui se préoccupent assez peu des frontières et des genres. Or, l'écrivain qui cherche à penser le monde contemporain, moi je m'intéresse aux artistes contemporains, l'artiste contemporain écrivain qui cherche à penser le monde, il peut difficilement, s'il est un peu exigeant, travailler et regarder le réel sans se poser des questions qui sont à la fois philosophiques, des questions d'ordre des sciences humaines et puis des questions évidemment scientifiques. Et lié d'ailleurs à l'imaginaire scientifique plus qu'à la science elle-même, hein, parce que donc les voies les plus intéressantes, à mon avis, littérairement en ce moment, elles sont. Je prendrai un exemple qui est la découverte récente que j'ai faite il y a 2 ans, mais que tout le monde est en train de faire, celle de Paolo Bacigalupi, qui est un écrivain tout à fait exceptionnel, qui réconcilie complètement un travail très réaliste sur qui écrit une littérature réaliste avec des dialogues puissants, des personnages très vrais, etc. Mais qui écrit de la prospective, donc, puisque c'est des romans d'anticipation, qui décrivent un monde qui est la projection vraiment terriblement logique de notre monde contemporain. Et donc forcément, bah, son héroïne est une femme synthétique, une fille automate, c'est le titre de son livre, et on vit dans un monde où les OGM, les manipulations génétiques, sont devenues la norme, et évidemment d'abord la norme industrielle, où on contrôle l'alimentation, où on peut menacer d'ailleurs l'humanité en y introduisant des virus, et où tout ça est dominé par la grande machinerie capitaliste, très évoluée à l'époque où il écrit. Donc les sciences sont complètement nécessaires à l'imagination, à l'imaginaire et même à l'exploration du réel. Donc moi je m'intéresse aux questions scientifiques secondairement à ce que j'ai lu chez les écrivains, et je dirais ça depuis toujours. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans la rencontre science et fiction, c'est que la question qu'on peut toujours se poser, c'est est-ce qu'on découvre ce qu'on a imaginé, ou est-ce qu'on imagine à partir de ce qu'on a découvert? Et ça, c'est une question intéressante. J'ai pris quelques dates, etc. Mais quand on regarde, je pense que c'est pour ça que la littérature de science-fiction est devenue non seulement complètement indispensable aux arts, à la vie et à la littérature, mais sans doute l'imaginaire est en train enfin, aujourd'hui, on parle beaucoup de transfiction, est en train de contaminer quand même le champ beaucoup de la littérature mainstream, et c'est totalement légitime parce qu'on peut difficilement penser les choses sans ça. Aujourd'hui, on le voit bien au cinéma, enfin, quand on... Finalement, on va apprendre des choses aujourd'hui grâce à vous, scientifiques, mais... On a le sentiment d'avoir déjà rêvé, vu au cinéma les choses que vous êtes en train d'inventer, et le nombre de fois où on se dit, aussi bien quand on pense aux maladies qui nous atteignent qu'aux thérapies qui sont découvertes, on se dit, mais bah oui, je l'avais déjà vu au cinéma, je l'ai déjà lu, c'est de la science-fiction qui arrive enfin. Mon intérêt pour la science.
Oui, je crois qu'on a un beau point de départ là, que Jean a peut-être envie de reprendre en commençant peut-être à... Est-ce que tu as des thématiques scientifiques, des thématiques science-fictives, pardon, qui dériveraient de ces travaux qui, à l'heure actuelle, sont encore assez spécialisés, mais si on passe à l'étape industrielle, si on passe, comme nous le disait Marion, à une plus grande échelle, qu'imagine la science-fiction ?
Alors, la science-fiction, elle a assez peu travaillé sur les cellules souches, qui sont en fait une découverte assez récente. Et ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on a inventé les choses avant de les mettre dans nos livres, ou est-ce qu'on les a écrites dans les livres avant qu'elles aient été inventées ? Il y a tout un jeu, un rapport qui n'est pas directif, je pense, c'est dans les deux directions. Alors, pour revenir sur les cellules souches, moi, je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui a été dit. On a dit qu'on a réussi à construire une souris entière. C'est-à-dire que les cellules souches, pour moi, elles mènent directement droit vers le clonage. Et c'est là où la science-fiction a quand même énormément travaillé sur ce sujet, sur la partie éthique, en particulier du clonage, les dangers, les risques. Alors, on peut imaginer effectivement, et il y a des auteurs qui ont travaillé sur la guérison, la notion de guérison, c'est ce que ça apporte en premier, c'est ça ce qu'il faut voir. Je pense que si on est optimiste, c'est ce qu'il faut voir dans les cellules souches, c'est... ça va nous aider à nous soigner, et on le voit dans un certain nombre de livres, mais par contre on voit tout de suite la dérive vers la notion de clonage, peut-être plus pratique que ce qui a été fait avec Dolly, quoi. C'est peut-être un autre moyen,
plus avancé, oui.
C'est plus avancé,
oui, mais en tout cas il y a quand même des limites, et puis il y a aussi un encadrement bioéthique pour éviter toute dérive, mais effectivement plus on avance et plus on a les outils pour arriver à ce genre de technologie, oui.
Ce qui est fabuleux avec les cellules souches, mais je dois mélanger bien des choses scientifiquement, c'est que tout d'un coup, on a le sentiment que c'est au cœur de plein de thématiques, donc celle du clonage, donc celle de l'immortalité, évidemment. puisqu'il suffit de se cloner et de transférer son âme. Alors là, on a des œuvres au cinéma ou ailleurs. En fait, on a l'impression que ça, mais celle de l'alimentation. On peut fabriquer un steak, vous allez sur Internet, cellule souche, vous pouvez, on pourra bientôt manger des steaks fabriqués à partir d'une cellule. Je ne sais pas si c'est, vous nous direz.
Après, ça reste conceptuel, je veux dire, je ne sais pas trop au niveau du goût ce que ça donne, et puis surtout financièrement, parce que oui, ça a été fait même.
Oui, c'est ce que j'entends dire.
Cellule souche de bœuf.
Ça, c'est à 200 000 euros le steak.
Oui, voilà, c'est, ça lui fait. Ils l'ont fait comme une preuve de concept, mais après, l'application à la vie réelle, voilà, c'est pas.
Alors, l'immortalité, c'est déjà maintenant, puisque il a été montré par une équipe française, d'ailleurs, qu'on pouvait faire ces cellules souches, donc reprogrammées suivant le protocole de Yamanaka, chez des gens centenaires. Donc, Et on a aussi montré que quand quelqu'un meurt, on peut trouver des cellules souches dans son organisme plusieurs jours, voire même plusieurs semaines après la mort, elles sont encore présentes. Donc on est effectivement vraiment aux frontières de l'immortalité dès maintenant.
Donc on y est en vrai, parce que dans les films, on a déjà vu, nous, la reconstitution à partir, alors dans beaucoup de films de SF, mais la reconstitution d'un être complet à partir d'une cellule, voire même du dinosaure à partir d'un bout d'os, ça, nous, on l'a déjà vu au cinéma. Mais donc, vous dites que, alors, c'est possible, on peut rajeunir. Ça, je pensais que c'était sur Internet, mais que c'était quand même pas complètement vrai.
Bah, on pourrait, à partir de quelqu'un qui est mort relativement récemment, récupérer des cellules et ensuite redériver à partir des cellules de cet individu toute une série de cellules de différents organes. Mais on n'est pas quand même, à l'heure actuelle, capable de refaire un individu entier.
Et son imaginaire, et ses sentiments, et sa mémoire.
Oui, bah alors voilà.
Là, ils sont déchaînés, je ne tiens plus.
C'est la notion.
Parce que là, du coup, on part sur, voilà, sur du matériel, donc c'est du vivant, mais après, est-ce que ce sera un individu identique au niveau biologique, mais la personnalité, c'est.
Alors, attendez, moi j'avais vu aussi qu'on avait pris des cellules de personnes très âgées, j'ai vu qu'on avait pris des cellules chez des gens qui avaient 74 ans, 100 ans, etc., qu'on avait réussi à les ramener au stade de cellules souches, mais je me demandais, est-ce que, à la limite, on peut traiter globalement un individu? Mais qu'est-ce que ça veut dire ramener une cellule à un stade indifférencié ou pluripotent? Est-ce qu'on peut imaginer dans un cauchemar de scientifique de prendre un centenaire et de le ramener à l'état d'un espèce de bac de protoplasme qui se différencierait progressivement, peut-être comme le fait le fœtus, pour revenir au stade adulte? Ou est-ce qu'on peut le traiter organe par organe en lui injectant des cellules souches qui vont réparer les vieilles cellules fatiguées dans tous les lieux où c'est nécessaire, et à ce moment-là c'est l'immortalité sans clonage par rajeunissement de l'individu. Est-ce que ça c'est envisageable?
Alors oui, c'est ça qu'on est potentiellement capable de faire à l'heure actuelle, c'est-à-dire c'est d'agir sur chaque organe quand il y a une maladie qui apparaît, une maladie de Parkinson, on va aller traiter la zone de Parkinson dans le cerveau et injecter donc ces cellules souches pour donc lutter contre
faites
le
vite,
Parkinson.
Faites vite.
Quand il y a un infarctus du myocarde, on va aller injecter des cellules dans le cœur pour lutter contre la zone de cicatrice séquellaire de l'infarctus. Donc ça, on est tout à fait capable de le faire à l'heure actuelle, avec des résultats qui sont, pour l'instant, quand même relativement modestes. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment capable de guérir à l'heure actuelle. On est plus capable d'empêcher une évolution plus importante. Donc il reste encore beaucoup à faire sur, Karim l'a dit, le type de cellules souches, le degré de maturation auquel elles doivent être injectées, le nombre, les allos, les auto-cellules souches, etc. Donc pour l'instant, on commence à le faire, mais les résultats sont quand même modestes.
Alors ça veut dire qu'on a probablement, dans quelques temps, la perspective d'augmenter la longévité de manière significative, en tout cas si on est optimiste. C'est le premier résultat auquel on peut aboutir. Et la science-fiction a pas mal réfléchi à la manière dont, aux questions que se poserait une société dans laquelle la longévité aurait énormément augmenté. Parce que qui dit individus qui vivent plus longtemps dit population qui s'accroît, à moins qu'on ne restreigne les naissances. Enfin bon, à quoi ça vous fait penser, cette idée de longévité extrême, à part Asimov peut-être?
À tout, parce que c'est le mythe. Je pense, en regardant un petit peu, le cinéma a été encore beaucoup plus efficace que la littérature pour explorer tous ces thèmes, depuis Bienvenue à Gattaca, qui reste quand même un des grands chefs-d'œuvre qui nous montre la chose. Enfin, moi je dirais, en pensant à Bienvenue à Gattaca ou encore à Bassigalupi, que plus ces recherches qu'on attendait, tout d'un coup, l'effet de vertige est fort, parce qu'on se dit, mais alors on croyait que c'était seulement
possibilités
du rêve, une possibilité, on l'avait lu dans les livres, on l'avait vu dans les films, et puis ça va être vrai. Et là, ma première réaction, c'est ce que la science-fiction nous dit quand même, les œuvres de science-fiction, c'est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et toujours la même chose, c'est-à-dire que, mais qui aura le droit de ne pas vieillir? Qui profitera de ça? Vous savez, dans Avatar, le héros qui se transforme en avatar, son problème, c'est qu'il est soldat, il revient du front. On pourrait lui faire des jambes, sans doute avec des cellules souches ou autre chose. Seulement, il ne peut pas, parce qu'avec sa solde d'ancien de l'armée, il est obligé d'accepter la mission et il n'a pas de jambes. Et souvenez-vous, dans le film, s'il fait cette mission, alors il pourra être opéré, avoir ce traitement de riche et récupérer l'usage de jambes. Et c'est pour ça qu'il accepte. Donc en fait, on est toujours, même dans les univers les plus magnifiques qui soient, qui profitera de... Alors ça pose tout de suite la question de pour quel pouvoir, pour quel... Est-ce que c'est pour tous? Non, c'est... Et là, ce que la science-fiction nous écrit quand même, c'est que la vraie question, elle est des sociétés qu'on va construire. Je pense même au... Vous voyez le Faust de Serge Lehmann qui date d'il y a quelques années et qui était si beau du point de vue de ses anticipations, il montrait le village, le monde du village, c'est-à-dire les grandes capitales européennes reliées, et puis autour le no man's land des gens qui ne sont rien, des populations entières qui régressent quasi à l'état de bêtes, vivant sur des poubelles, et puis effectivement le village des gens heureux, beaux, écologiques, jamais vieux, quasi immortels, cultivés, éduqués, lecteurs, etc., etc. Et en fait, la seule, ma vraie question, c'est est-ce qu'on arrivera à partager ce savoir pour tous, ou est-ce que ce sera de plus en plus la guerre de ceux qui seront soignés, ceux qui ne le seront pas, ceux qui...
Alors, sur Bienvenue à Gattaca, donc depuis quelques mois, ce n'est plus du tout de la science-fiction. Si vous vous souvenez, dans Bienvenue à Gattaca, la jeune femme récupère un cheveu de son compagnon. Elle va le porter dans un kiosque à journaux, hein, et on lui rend la carte génétique de son compagnon. On lui dit, vous avez tiré le bon numéro, il faut absolument le garder, il est parfait. Et donc, pour quelques milliers de dollars, hein, ça n'a pas coûté cher, pour à peu près 2000 dollars et moins de 10 minutes, on peut donc faire votre carte génétique, hein, ça s'appelle l'exome, on peut le faire à Nantes d'ailleurs. Et donc à l'université, et on sait maintenant dans cette carte identifier un certain nombre de facteurs de risque de maladie. Et il y a un grand scientifique qui s'appelle Snyders qui a publié un papier il y a juste quelques mois où en fait il a fait ça sur lui-même. Et il a une cinquantaine d'années, il était plutôt fort et bon vivant. Et ensuite, il a suivi l'expression de ses gènes pendant 18 mois et il a vu apparaître chez lui-même un diabète qu'il a mis en relation avec un certain nombre d'événements, d'infections, etc. qui lui sont arrivés et qu'il voyait sur le plan biologique apparaître sur les examens. Et donc, il a publié ce papier en disant qu'il était très content parce que finalement son diabète avait été découvert au stade de pré-diabète, ce qui lui avait permis de se mettre au régime et d'arrêter de manger tout et n'importe quoi. Mais donc voilà, on n'est plus du tout dans la science-fiction, on est dans la réalité accessible.
Alors, Jean, puisque vous êtes dans des domaines qui posent évidemment des questionnements éthiques et sociaux très très importants et qu'il va falloir se poser très vite, souvent on se tourne d'une manière très critique vers les chercheurs en leur disant vous ne vous souciez pas des conséquences de ce que vous faites. C'est une critique qu'on formule souvent. Moi j'aimerais bien savoir d'abord si vous considérez que c'est à vous de contrôler votre propre activité et de décider si elle est pertinente socialement ou pas. Où doit se décider cette éthique et comment réfléchir à l'éthique dont nous avons besoin. Est-ce que vous, par exemple, vous vous tournez vers la science-fiction pour savoir si elle a déjà abordé les questions, quelles difficultés économiques, morales, politiques commencent-elles à permettre de capter voilà, où se situe la responsabilité éthique, sociale et politique?
Alors, pour moi, les choses sont assez claires. De toute façon, le chercheur, y compris Yamanaka, je ne suis pas sûre qu'en 2006, il ait saisi toute la portée de sa découverte. Il faut fiche la paix au chercheur, parce qu'on ne sait pas à l'avance si quelque chose va être important ou pas important. Et quelquefois, c'est plusieurs dizaines d'années d'après qu'on s'aperçoit qu'on a fait une découverte fondamentale. Par contre, ce sur quoi il faut réfléchir, c'est l'utilisation de la recherche. Et c'est là qu'il y a un débat citoyen et sociétal à avoir sur des décisions collectives à prendre sur, ben oui, on utilise ça ou ça, non, on y renonce définitivement. Et à ce moment-là, le chercheur, il devient un citoyen comme un autre, avec un point de vue personnel. Mais je pense qu'il faut vraiment faire une distinction entre la recherche et l'utilisation des résultats de la recherche.
Alors, ça, c'est quand même quelque chose qui a été... Bon, là, on l'a vu beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale avec la notion de responsabilité qui était distribuée. C'était, je ne suis pas responsable, j'ai fait que suivre les ordres, ce n'est pas moi qui ai fait ci, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est vrai que c'est éthiquement parlant, ça pose vraiment un problème de dire est-ce que le chercheur n'est pas quand même malgré tout responsable de ce qui pourrait être fait derrière de son...
Faut voir quand même que le chercheur il est focalisé comme sur une thématique en particulier auquel il va essayer de répondre à une question qui n'est pas sans forcément voir l'impact que ça peut avoir après, la dérive, comment ça peut être dérivé par d'autres personnes, parce que déjà le travail qu'il faut faire pour émettre ses hypothèses, travailler sur le sujet, on n'est déjà pas sûr que ça marche, et ça prend tellement de temps que c'est humainement pas possible de commencer à d'imaginer l'impact sociétal dans toutes ces détails, c'est juste impossible quoi. Donc on est obligé, je pense que le chercheur fournit les connaissances et comme disait Patricia, il faut qu'ensuite il y a un effort général pour que ce soit utilisé correctement et qu'il n'y ait pas de dérive.
Moi, je pense vraiment que le chercheur, il n'est pas plus responsable que l'écrivain d'utiliser son cerveau et son imagination. Si on prend l'exemple de Herbert et de Dune, pourquoi l'exemple de Herbert et de Dune? Parce que, selon moi, mais Karim pourra le dire, il connaît bien l'œuvre. Pour moi, la première apparition des cellules souches dans mon imaginaire, je le dois à Dune et je le dois au Texalou et au Gola, à la création des Gola, Duncan Idaho qui est un Gola, et les Texalou maîtrisent complètement dans Dune la reproduction artificielle.
À partir de cellules de l'individu,
voilà,
dans
donc,
des cuves.
C'est bien que tu valides parce que j'étais pas sûre que ce soit vraiment des cellules souches. Alors je me suis interrogée sur qu'est-ce qui était arrivé en premier, puisque les travaux de... Alors j'ai noté parce que quand même ça c'est donc Crick et Watson qui ont découvert la double hélice de l'ADN en 53. Ils ont commencé à travailler sur les gènes en 51. Et je crois Crick, l'un des deux, devient Nobel en 62. Or Dune est publié en 65. Donc 10 ans après, ça a été un énorme, je pense que ça a été un énorme événement mondial et que Herbert ne pouvait pas ignorer ça. Donc, mais il y a assez peu d'écart. Et ce qui est évident, c'est que dans cet aller-retour entre qui initie quoi, moi je pense qu'à un moment donné, l'état de conscience des humains fait que on n'invente rien, on est tous dans les mêmes choses, quoi. Les mêmes idées naissent aux mêmes endroits, en plusieurs moments, sous plusieurs formes. Et puis après, il y a l'originalité du porteur, et ça n'appartient qu'à une personne. Ouais. Mais je crois que dans ce croisement des deux travaux, ils se sont forcément... peut-être que les chercheurs ne connaissaient pas Herbert, ça c'est possible, parce que Herbert n'est pas devenu le Herbert aussi vite que ça. Lui, il devait avoir entendu parler des... Alors, qui est le plus coupable ? Est-ce que c'est le chercheur ? Est-ce que c'est l'écrivain ? Ou tout le monde ? L'écrivain, il met en garde, mais aussi, il nous fait rêver de ça. Il nous fait autant rêver d'un monde où on maîtriserait les naissances et la génétique... Que d'un où on serait immortel, etc. Quand l'écrivain nous met en garde contre les dangers, il nous fait aussi rêver d'être cette personne éternelle depuis Frankenstein et depuis la nuit des temps. Donc il est tout aussi coupable que le chercheur. Moi, j'aurais tendance à dire que le vrai coupable, c'est le citoyen qui ne lit pas de science-fiction par les temps qui courent. Parce que celui qui lit de la SF, c'est pour ça que c'est une littérature qui, à mon avis, est totalement nécessaire. Peu importe ses chiffres de vente et ses rayons en librairie et les difficultés qu'on a selon les périodes, mais elle est artistiquement, esthétiquement et humainement nécessaire, et surtout elle contamine les intelligences et partout, parce que c'est la seule qui arrive à regarder tout ça globalement. Et je crois que et les chercheurs et les écrivains et les artistes et tout le monde, on a tous les moyens de savoir ce qui va nous arriver, puis après d'opérer des choix conscients. Le problème, c'est que tout le monde n'ait pas accès à ce savoir-là. Et tout le monde ne puisse pas participer à ces choix qui concernent l'humanité entière. Je pense pas que les chercheurs sont dangereux. Pas plus que les écrivains.
Alors, je pense pas qu'il faille chercher un coupable. C'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est simplement qu'il y a effectivement un certain questionnement. Et je crois que tu as raison. Le questionnement, c'est à nous tous. C'est à chacun d'entre nous de se poser la question. C'est bien, vous êtes là. Donc vous êtes déjà dans la démarche. Et tous les gens qui sont pas là... qui devrait être là, et c'est tout ce questionnement. Par contre, il ne faut surtout pas arrêter de chercher, parce que si on arrête, on n'avancera plus, et justement, il y a un double moteur de la science et de la fiction qui doivent s'entraîner l'un l'autre, donc merci de nous faire rêver, en tout cas.
Mais c'est vrai que ces conséquences sur les sociétés qui vont se mettre en place et qui bénéficieront de ces outils doivent être anticipées. Moi aussi, ça me paraît évident que c'est pas aux chercheurs, les chercheurs n'ont pas à être totalement pluridisciplinaires et à être à la fois des philosophes, des sociologues, à être capables d'anticiper les évolutions techniques qui vont découler de leurs travaux. On ne peut pas tout leur demander à la fois. C'est pas des surhommes, malgré toute l'admiration qu'on a pour eux. Ils sont spécialistes dans un domaine, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont si bons dans ce domaine. Mais la grande question, une des grandes questions de notre société actuellement, comme disait Marion, on n'a pas vraiment de structure de réflexion pluridisciplinaire qui pose collectivement la question de la manière dont on doit encadrer, non pas ces travaux, mais l'utilisation de ces travaux. Et moi, la grande crainte que j'ai, c'est que ce soit des facteurs économiques qui, à l'arrivée, soient les seuls à décider de ce qu'on met en œuvre et de qui a droit d'en bénéficier. Et la science-fiction ne prend pas ce facteur systématiquement comme facteur clé. À qui faudrait-il rendre obligatoire la lecture des œuvres de science-fiction, au-delà du fait que tout le monde devrait les lire ? Moi, je me dis actuellement, c'est les grandes firmes médicales, pharmaceutiques, industrielles, qui décident pour nous... Comment on pourrait réguler ça, les uns et les autres, côté science-fiction, côté science ? Qu'est-ce qui pourrait faire barrage ?
Alors, en fait, il y a un cadre. Hein. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de cadre. Il y a un cadre, c'est même une loi. Hein. Ça s'appelle la loi de bioéthique. Elle a été remodifiée cette année. Elle est extrêmement précise, et en particulier en France, elle interdit l'utilisation des cellules souches embryonnaires, sauf dérogation qu'il est difficile d'obtenir, ce qui fait qu'elle met la France en difficulté pour développer ses recherches, parce qu'en fait, les cellules qui ont été produites par Yamanaka, pour savoir que c'était bien des cellules souches intéressantes, il fallait les comparer, et il fallait les comparer aux cellules souches embryonnaires. Si on n'avait pas eu les cellules souches embryonnaires, jamais Yamanaka et jamais personne n'aurait trouvé ce nouveau type de cellules souches. Donc c'est très important de pouvoir continuer à travailler sur les cellules souches embryonnaires. Or, c'est une recherche qui n'est pas autorisée en France, sauf dérogation très difficile à obtenir. Donc le cadre, il existe, il est législatif. Le résultat, enfin la raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce qu'il y a un lobby très important en France. de l'Église catholique, hein, qui a lutté très efficacement à l'Assemblée nationale pour faire passer des amendements donc empêchant donc l'utilisation des cellules souches embryonnaires. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait faire évoluer. Les législations sont différentes d'un pays à l'autre. Donc notre pays est parmi les plus restrictives. D'autres pays sont beaucoup plus ouverts, en particulier les pays anglo-saxons. D'autres pays n'ont pas de régulation, ce qui là pose problème. Et en France, il y a quand même des comités d'éthique partout. Il y a des comités d'éthique dans les hôpitaux, il y a des comités d'éthique qui donnent des autorisations pour faire des protocoles, il y a des comités d'éthique dans les grandes institutions scientifiques, et nous avons un comité national d'éthique qui a participé très activement à la rédaction de cette loi.
Et tu as l'air de regretter que... Mais alors, en même temps, si pouvoir travailler sur les cellules embryonnaires, c'est permettre le clonage humain, finalement.
Non, pas du tout. C'est avoir au laboratoire un outil qui permet de faire des comparaisons et des études. Voilà, c'est un outil parmi d'autres, mais qui est extrêmement important pour développer d'autres outils.
Pour vérifier si les cellules souches ont bien les mêmes caractéristiques que les cellules embryonnaires que l'on utilisait jusqu'à présent, c'est
oui,
bien ça.
Et puis même pour le, voilà, il y a probablement dans les années qui vont venir, des modèles vont être mis au point à partir de cellules souches induites à partir d'un individu et permettant la mise au point de thérapies pour soigner l'hypercholestérolémie ou je ne sais quelle maladie. Et ça découle de toutes les connaissances qu'on a pu acquérir grâce aux cellules souches embryonnaires. Sans ça, ça aurait mis bien beaucoup plus de temps ou ça ne serait pas arrivé du tout. Alors j'avais une remarque par rapport à ce que vous disiez avec la corrélation entre Watson et Crick et la découverte de la structure de l'ADN et la publication de Dune. Alors, en fait, Herbert avait très bien travaillé son sujet et, parce qu'en fait, donc, dans Dune, il y a une civilisation qui utilise les cellules d'une personne pour les amener dans une cuve qu'il appelle les cuves axolotl pour ensuite régénérer un individu entier. Et en fait, l'axolotl est un modèle de développement qui a été étudié dans les années 1920-1930 où les chercheurs ont pu mettre en évidence que pendant le développement, un territoire de cellules qui, par exemple, devait donner des muscles pouvait être déplacé pour donner autre chose. Et donc, c'est un peu les premiers travaux qui montrent la plasticité des cellules pour ne pas être complètement figées vers un destin cellulaire. Et il s'est beaucoup inspiré de ça pour développer son modèle de cuve. L'autre chose, où ça rejoint la discussion qu'on avait eue avant sur le fait de générer un individu à partir de cellules, mais on n'a pas la mémoire ou la personnalité. Et en fait, c'est un peu le cas dans Dune. Jusqu'à ce que, à force de répliquer la même personne, parce qu'en fait, ce Gola Duncan Idaho est répliqué plusieurs fois, donc sur des millénaires, Frank Herbert introduit la notion de mémoire cellulaire qui peuvent être récupérées ensuite par l'individu pour récupérer toutes ses mémoires de toutes ses vies. Et c'est assez intéressant parce que donc ça fait pas si longtemps qu'on arrive à reprogrammer des cellules de peau en cellules souches. Et donc ça fait à peu près 5 ans maintenant, 5-6 ans. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a une mémoire qu'on appelle épigénétique. Donc le génome lui-même code pour une information qui va nous identifier. Et le génome lui-même a des modifications qu'on appelle épigénétiques et ces modifications peuvent perdurer lorsqu'on reprogramme les cellules en cellules souches. Du coup, il y a une forme de mémoire en fait qui est moléculaire et que Herbert il était assez loin dans son imagination, mais est pas si loin que ça dans le niveau du concept de maintien de la mémoire.
Une des choses qui me frappe quand même toujours quand on est là, on parle de découvertes scientifiques de pointe très récentes et qui nous créent donc cette espèce de vertige dont je parlais, parce qu'on se dit alors c'était vrai, mais en même temps finalement ça fait depuis les mythologies initiales on pense la même chose et toujours la même chose, c'est-à-dire On peut reproduire des corps et on peut transporter des âmes. Et donc, qu'est-ce qui définit l'homme ? Est-ce que c'est le où est le siège de l'âme ? Où est le siège de l'âme ? Et c'est la question éternelle depuis la nuit des temps. Est-ce qu'elle gît dans une cellule ? Mais alors, quid des affects et des conditionnements environnementaux, familiaux, etc. Et donc, on est toujours dans cette vieille interrogation sur qu'est-ce qui définit l'homme ? Est-ce que c'est son corps et ses cellules ou est-ce que c'est son vécu ? Ce thème-là, il est exploré en permanence hein, au cinéma. Donc, on enlève la mémoire, on la rebranche. Le héros part en quête de sa mémoire qui a été effacée. Il est manipulé, on lui met la mémoire d'un autre. On change de personnage. Enfin, il y a une bibliothèque de films, tous aussi bien les uns que les autres, parfois mauvais, mais c'est pas grave. Ils sont des belles histoires de ce type. Jusqu'à Matrix, où Mr. Smith finit par dire, le cancer de la planète, c'est l'homme. Vous êtes le parasite de la planète, mais pas seulement. Il y a aussi de nombreux films où finalement le robot, il est plus rationnel, etc. Et il finit par évacuer la question des affects et de tout ce qui vient perturber cette planète, parce que l'homme, ce renversement est toujours. Mais enfin, on est toujours dans la même. Et ce qui est troublant, c'est que finalement, c'est une interrogation qui est initiale. Et la science, progressant à ce point, ne fait que reposer toujours cette question de qu'est-ce qui définit un humain et pourquoi...
De toute façon, on répond à des questions pour en poser d'autres.
Mais bon, la littérature de SF, la littérature de mythologie, la littérature d'imaginaire, celle qui d'emblée franchit la frontière de la vie et de la mort, est quand même celle qui est, me semble, la plus paradigmatique du point de vue de l'humain. C'est la seule qui tienne et qui soit toujours vraie, de Frankenstein à les chefs-d'œuvre de cette littérature-là sont toujours aussi actuels. Ça, c'est quand même phénoménal. C'était juste un petit éloge, j'en passe.
Oui, enfin, je pense que là, on aborde le problème, ce qu'on peut dire globalement, de la transhumanité, c'est-à-dire où est-ce qu'on va aller plus loin avec l'humain. Hier, il y avait ici une conférence sur les robots et sur ce que ça pouvait apporter, donc le côté support apporté par l'extérieur à l'humain. Là, on est en train de travailler à un support apporté par l'intérieur à l'humain pour s'améliorer, pour devenir plus jeune, plus beau, plus efficace, moins malade. Et c'est vraiment ça, on est dans la notion de transhumanité, de comment est-ce qu'on voit l'humanité d'au-delà, en espérant qu'il n'y ait pas un Mr. Smith qui décide que nous sommes un gros virus.
C'est un peu terrifiant quand même, parce qu'on est en train de parler de toutes les grandes thématiques de la science-fiction, et les scientifiques sont en train de nous dire que c'est déjà vrai. On est en train de parler de... d'avoir la carte génétique d'un individu, de connaître sa durée de vie probable, ses facteurs de risque pour quelques milliers d'euros en quelques dizaines de minutes. Bon, je sais pas vous, mais et je trouve ça assez terrifiant. Mais est-ce que ça veut dire que si on trouve une goutte d'ambre figée dans laquelle il y a un moustique et qu'on va analyser le sang de ce moustique et qu'on y trouve une cellule de dinosaure qu'on arrive à faire remonter à l'état de cellule souche, on va pouvoir fabriquer le dinosaure maintenant, ça y est, c'est vrai ?
Bah, je ne sais pas si c'est... je ne pense pas que techniquement on puisse le faire, mais par contre on peut l'imaginer. Et très probablement...
On a le droit de tout imaginer.
Peut se dire, oui. Mais on peut se dire que technologiquement, si... voilà, je vais pas là. On arrive à la frontière du.
Mais vous avez vraiment fait une souris à partir de cellules souches de souris.
Oui, ça a été fait, oui, oui, oui. Donc une souris dont des cellules de peau ont été reprogrammées en cellules IPS, et ensuite ces IPS ont été utilisées pour générer une souris qui est complètement dérivée de cette cellule IPS.
Elle a tout. Elle a des yeux. Elle a des moustaches. Elle a un estomac.
Mais pour l'obtenir, il a fallu implanter ces cellules souches dans l'utérus d'une souris. Ça n'a pas été fait.
Oui, c'est pas dans une cuve, oui.
Donc c'est, finalement,
c'est la souris.
Finalement, c'est un clone.
Oui, c'est un clone. Oui.
C'est une alternative au clonage, effectivement.
On est sous le choc, excusez-moi.
Non, mais, vous pensez, moi je pense tout de suite au film à Lille. The Island, vous l'avez vu, et c'est un film assez terrifiant. Enfin, je pense que si la SF en ce moment produit des œuvres assez terrifiantes, c'est parce qu'il faut absolument être attentif à ce que tout ça peut devenir. Puis on revient à la question initiale qui dépend quand même assez peu de réponses.
Il faut apprendre à prendre le contrôle de tout ça, à le réguler. Nous avons des lois, mais moi je suis très heureuse de savoir que nous avons des lois françaises dans le domaine de la bioéthique, mais on peut se demander ce que c'est qu'une régulation française dans un environnement qui est quand même de plus en plus international, avec Internet et bien d'autres manières de faire. Une législation nationale, ça a des limites certaines.
Oui, mais en même temps, on travaille en coopération. Il y a maintenant des régulations européennes et on peut imaginer des régulations internationales. On peut aussi œuvrer pour obtenir ces régulations internationales.
Probablement, ce qui va arriver.
Et que les pays qui n'ont pas de législation se dotent d'une législation.
On peut trouver quand même très surprenant que les États-Unis, qui sont un pays où le créationnisme, par exemple, a un pouvoir énorme et influe sur les programmes éducatifs, soit un pays où finalement ce n'est pas l'Église qui a imposé des restrictions dans le domaine de l'utilisation des cellules de fœtus.
Alors en fait c'est très variable d'un État à l'autre. Et c'est en Californie qu'il a été décidé de faire, non seulement d'autoriser la recherche sur ces souches embryonnaires, mais même de mettre le paquet. C'est-à-dire qu'ils ont mis des centaines de millions de dollars au service de la recherche dans ce domaine parce qu'ils avaient une vision très pragmatique qui consistait à dire qu'il fallait garder une avance dans ce domaine et que pour garder de l'avance, il faut travailler là-dessus. Par contre, il y a d'autres États à l'intérieur des États-Unis, y compris sous Bush, il y avait une régulation qui était beaucoup plus forte. Beaucoup plus restrictive. Donc ça montre aussi que ça peut très bien évoluer. C'est pas parce qu'on a une législation qui actuellement en France est trop restrictive de mon point de vue et probablement celui de Karim sur l'utilisation des cellules souches embryonnaires dont on a absolument besoin comme outil au laboratoire, outil d'études. Moi j'espère avec d'autres et Marc Péchanski en particulier que ceci évoluera.
En tout cas, c'est peut-être restrictif, mais c'est plus stable. Donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu un moment où il y a eu des problèmes d'amendement qui ont fait que tous travaux sur les cellules souches embryoniques, n'étaient plus financés par le NIH. Et du coup, tous les projets qui étaient en cours étaient gelés. Donc, c'est vraiment, il y a des opportunités, mais il y a un cadre qui est encore un peu flottant.
Sauf qu'on a déjà vu, alors au cinéma, à commencer par James Bond, qui est aussi de la science-fiction d'ailleurs, des gros méchants de tout poil, acheter des îles secrètes, faire des laboratoires souterrains et à coup de milliards,
l'argent et les nerfs de la guerre,
avoir déjà inventé une armée de clones, parce que vous nous avez dit que c'était possible. Eux, ils y sont déjà, c'est sûr.
Pendant qu'ils...
Ça va coûter un paquet de pognon quand même. Mais
ils sont très très riches et très très méchants.
Je voulais juste dire, parce que ça m'est revenu, que François Hollande s'est engagé à faire changer la loi de bioéthique juste avant les élections. Donc on espère qu'il tiendra parole.
Il nous reste 5 minutes. Je pense que vous avez sûrement des questions à leur poser. Vous avez des spécialistes dans ce domaine pointu. Donc voilà, la parole est dans la salle.
Bonjour, ce serait une question pour nos scientifiques. Vous avez parlé à partir de cellules souches, de cellules reprogrammées, de pouvoir effectivement refabriquer des tissus. Une cellule à un certain âge, si on récupère la cellule d'une personne de 75 ans, est-ce qu'elle peut être reconsidérée comme étant une cellule embryonnaire avec tout son potentiel de vie cellulaire, de durée de vie cellulaire ?
Oui, en fait... Pendant le processus de reprogrammation, une cellule qui a 75 ans va être proche de ce qu'on appelle la sénescence, en fait, qui est due au matériel génétique qui va être de moins en moins stable par des structures précises au niveau des chromosomes. Et en fait, ces structures sont régénérées au cours de la reprogrammation. Enfin, surtout, une fois que les cellules sont reprogrammées, après plusieurs passages, ces structures sont restaurées et donc les cellules sont plus proches de cellules embryonnaire que de cellules d'une personne de 75 ans.
Alors, la fabrication de la souris à partir de cellules souches reprogrammées, elle a été faite 5 fois. C'est-à-dire qu'on a pu, à partir d'une seule cellule souche, générer une souris. À partir de cette souris, refaire des cellules souches, générer une deuxième souris. Bon, au bout de 5 fois, les gens, ils en ont eu marre, ça prend du temps, ils se sont arrêtés. Donc, c'est pas parce qu'on ne peut pas aller plus loin que 5, ça a été fait au moins 5 fois. Donc, le potentiel d'immortalité de ces cellules est quand même certain.
Et à l'inverse de Dolly, qui elle avait des, justement des cellules qui étaient déjà avancées, là les cellules, la souris qui naît est à un âge, enfin l'âge des cellules est l'âge normal.
Mais par contre, génétiquement, elle a bien le même matériel génétique. Elle a la même signature génétique que sa mère, entre guillemets.
Oui, enfin, il y a peut-être quelques variations dues justement au processus pour faire revenir les cellules aux cellules souches induites, mais globalement, c'est le même génome.
Une dernière question ?
Oui. Bonjour. J'ai remarqué que qu'il y avait un vitalisme tenace dans certaines questions de madame. Et je voudrais savoir, par rapport à ça, quelle nouvelle conception du vivant amène vos découvertes ? Parce que ça amène quand même à une vision plutôt mécaniste, plutôt entre guillemets matérialiste de la manière dont on est constitué. Et ça peut en quelque sorte désenchanter la vision qu'on avait des êtres humains jusqu'alors. Donc je voudrais savoir quels échanges vous avez avec d'autres disciplines, comme la philosophie par exemple, et qu'est-ce que ça produit comme nouvelle vision de l'homme.
Alors, effectivement, il y a toute une réflexion avec les sciences humaines et sociales pour autour des questions qui sont posées, qui débutent. Donc, moi, je crois que là, aujourd'hui, il faut qu'on laisse la parole aux écrivains et à ceux qui les éditent.
Vous savez, les plus beaux films antiracistes, pour moi, qui sont sortis récemment, sont ceux où les robots pleurent et disent « Moi aussi, je suis humain ». Et parfois, les robots sont plus humains que les humains. Et je pense que l'humanité, c'est une question de valeur. Est-ce que tout ça nous dit, à mon avis, c'est que c'est une question de valeur et qui doit absolument être envisagée comme appartenant à chacun de nous. C'est-à-dire que, enfin, quand le professeur Le Marchand nous dit, après tout, on peut agir, mais je pense qu'il faut agir, en fait, parce que l'humanité, c'est vraiment d'abord une question de valeur, avant d'être une question de, est-ce qu'on a un corps synthétique, est-ce qu'on a un corps de chair et de sang, est-ce que demain, on peut imaginer aussi des vous savez, les handicaps, les gens brisés, ils peuvent être réparés. Voyez, si vous avez lu Étoile mourante, les armures inventées par Ayerdal et Duniac, elles sont possibles peut-être demain, et auquel cas des personnes handicapées qui n'avaient plus d'yeux, plus de membres, plus de muscles, etc., peuvent revivre dans des corps synthétiques. L'humanité, on s'aperçoit que plus la frontière recule de ce qui définit l'humain à l'ancienne, de l'os, de la chair, du sang et une conscience, eh bien, le plus important, c'est quand même la conscience et son histoire personnelle et l'originalité de chacun. Et ça, j'imagine, je ne sais pas, est-ce que les souris, après avoir longtemps vécu, ces 5 clones de souris, si elles vivent dans des endroits différents et qu'elles font des choses différentes, deviennent des individus toujours pareils, j'en doute absolument. Mais je ne sais pas.
Non, évidemment, la génétique, c'est une chose, et après, c'est quand même l'environnement qui définit l'entité.
Donc le vivant est peut-être plus sacré que l'humanité, et cette conscience-là nous rendrait humains. Mais peut-être que ça doit nous amener aussi à la façon dont on envisage le vivant, pas seulement dans l'humanité, mais... dans la somme des êtres vivants. On a un rapport chez nous, en tout cas en Occident et avec scientifiques, on s'éloigne en plus complètement de jour en jour, toujours plus. L'humanité, elle est aujourd'hui urbaine, elle s'éloigne de sa ruralité, elle s'éloigne de la nature, elle s'éloigne des cycles. Et je crois qu'en fait, au-delà de ce qui définit l'humain, c'est qu'est-ce qui définit le vivant. Je suis d'accord avec votre question, il faut qu'on repense au vivant et à tous les vivants, et peut-être qu'un jour on pensera différemment, y compris la vie animale et la vie non humaine. On devrait le penser, mais de ce point de vue-là, là aussi, je pense qu'un auteur comme Pierre Bordage, si on le lit beaucoup, c'est parce qu'il nous dit beaucoup de choses très très importantes sur le vivant et tous les vivants.
Je crois que là on a parlé de biomécanique finalement plus que d'individus.
En tout cas, je crois qu'on a là des beaux sujets et des belles questions qui vont nous permettre de terminer cette table ronde avec encore plein de questions dans la tête, mais c'est des questions fascinantes et je crois que on peut dire un grand merci à tous les participants de cette table ronde qui nous ont fait rêver, inquiéter, mais en tout cas donné beaucoup de matière à réflexion et à engagement peut-être. Donc merci à vous tous.